Derrière le masque, avec les soignants en Normandie.
Thierry Luc Bulle a 63 ans. Diplômé de Sciences Po et de l'École des hautes études en santé publique de Rennes, il dirige des hôpitaux depuis 40 ans. Aujourd'hui, à la tête du Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô et du Centre hospitalier de Coutances, l'homme, affable et passionné par son métier, reconnaît que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le quotidien de l'hôpital. Alors qu'il couvre d'éloges et de reconnaissance ses équipes, Thierry Luc Bulle lance une fois de plus un appel aux dons, sans ces dons matériels des particuliers, des entreprises locales. L'hôpital public aurait eu beaucoup de mal à faire face au virus.
La fonction d'un directeur, c'est un peu, je l'assimilerais à celle d'un chef d'orchestre. Et j'ai un orchestre très nombreux, hein, beaucoup de solistes, de merveilleux solistes, puisqu'on est 1500 agents à Saint-Lô, 600 à Coutances, et si je rajoute 40 ans, qui fait partie du groupe hospitalier de territoire que je dirige, ça fait aussi 200 personnes. Donc, mon but, c'est quelque part d'anticiper, je dirais, de prévoir, de mobiliser, de communiquer, de rassurer, d'alerter aussi les autorités quand effectivement sur des équipements on en manque ou s'il y a des difficultés, et puis savoir aussi mobiliser tout le monde, savoir les remercier. Ça, c'est un rôle fondamental, qui est un rôle aussi de soignant. Je dirais, on parle des soignants, mais tout le monde à l'hôpital est soignant à sa manière. Un logisticien est un soignant, un directeur est aussi un soignant, parce qu'on se préoccupe tous, effectivement, que les personnes qui nous sont confiées soient dans les meilleures conditions possibles pour retrouver la santé.
L'épidémie du Covid-19 a-t-elle modifié votre quotidien ?
Ah oui, ça, on peut dire que c'est quelque chose auquel on était préparé, mais auquel on ne s'attendait pas. Je veux dire par là qu'on est préparé à faire face à l'imprévu, mais qui en général, lors de déclenchement de plan blanc, ce sont des catastrophes, ce sont des choses qui durent un jour, deux jours, mais pas dans la durée comme cela. Et ça a pris tout le monde au dépourvu, hein, et on a beau savoir s'adapter et faire face à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, ça a quand même bouleversé notre quotidien. À savoir que déjà, on a changé complètement nos emplois du temps, hein, tout ce qui était... on a fait bien la distinction entre ce qui était superflu et ce qui était indispensable. On a même supprimé les conseils d'administration, on a supprimé les rendez-vous, on a gardé que ce qui était relatif au Covid-19. Donc, je dirais, on mange Covid, on boit Covid, on dort Covid, on en est tous là. Mais l'avantage, c'est que ça a mobilisé toute la communauté hospitalière de Saint-Lô comme de Coutances sur vraiment l'essentiel de notre métier, de notre mission, qui est de soigner et d'offrir à nos patients les meilleurs soins possibles. Et ça, c'est effectivement, ça nous a fondamentalement changé notre quotidien.
Est-ce que l'on peut se préparer humainement et techniquement à une épidémie d'une telle importance? C'est difficile à percevoir pour nous, en dehors de l'hôpital, cette question de savoir si on peut se préparer à cela.
Pas réellement. On est préparé dans le sens où, dans notre métier, à quelque échelon que ce soit de l'hôpital, on est habitué à s'adapter tous les jours. L'urgence, ça fait partie de notre quotidien. Changer des unités comme on le fait tous les jours, transférer des patients, transférer des équipes, changer les plannings, ça, on sait faire. À cette échelle-là, c'est quand même assez rare, c'est quand même unique, mais quand on est face à la crise, on s'aperçoit qu'on mobilise tous des ressources insoupçonnées et que tout le monde serre les coudes. J'ai pas de défection ici à l'hôpital, il n'y a pas de droit de retrait, il n'y a pas de... Tout le monde est extrêmement mobilisé et je croise les gens parce que je me déplace dans les unités. J'étais ce matin en réanimation, féliciter les équipes. On s'aperçoit que tout le monde garde le moral, garde le sourire, je dirais, et a envie de bien faire. Et dans une crise comme ça, c'est là où on révèle toute la capacité de l'hôpital public et des hospitaliers à faire un job qui est quand même... pas facile, il faut l'avouer.
Vous parliez du moral, j'allais vous poser cette question justement, cette question du moral des troupes et du moral de vos équipes. On a l'impression, en tout cas on a eu l'occasion d'interviewer du personnel de chez vous, Thierry Luc Bulle, on a l'impression qu'il y a un vrai enthousiasme dans la difficulté, mais une vraie joie d'être au service de la société.
Ben, c'est-à-dire qu'on se sent réellement utile. Ça, c'est sûr que qu'on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on va travailler, et ça nous motive doublement. Je l'avais déjà un peu perçu il y a plusieurs années lorsqu'il y avait eu, ça a eu une tempête de neige qui avait immobilisé tout le monde, et j'avais été frappé par la solidarité de tous les soignants, et tout le monde était vraiment à l'unisson. Et là, c'est la même chose, c'est même décuplé, parce que c'est autre chose que de la neige, hein, c'est une vraie tempête que l'on vit. Et on s'aperçoit lorsque je fais des réunions de crise, puisqu'on a des réunions de crise tous les matins, dans la journée, des commissions logistiques, des conférences téléphoniques, tout le monde est là. Tout le monde est là, et ceux qui ont eu le Covid, puisqu'il y a eu des agents qui ont eu le Covid, dès qu'ils ont terminé, et même avant la quatorzaine, ils ont repris. Ils n'avaient qu'une hâte, c'est de venir aider leurs collègues.
Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne, ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire a effacé.
Ça nous fait du bien, je voulais le dire aussi, de voir cet élan de solidarité autour de nous, de voir la population qui nous applaudit, de sentir cette solidarité autour de nous. Ça nous motive encore plus. Je veux dire, qu'on reçoit des dons, alors c'est presque un peu amusant, on reçoit des chocolatines, on a reçu des ananas, on a reçu des biscuits.
Vos équipes vont prendre du poids, hein, parce que...
Il y a un élan de solidarité qui est vraiment très sympathique, des parents d'élèves qui nous ont fait des masques, il y a des gens qui nous apportent leur petite boîte de masques, il y a des entreprises qui nous amènent des cartons entiers. C'est vraiment très enthousiasmant de voir cet élan de solidarité, de générosité. Et c'est vrai que la vie sera peut-être plus pareille après la crise. Et je pense que les gouvernements se rendront compte que l'hôpital public, c'est un trésor qu'il faut absolument conserver et renforcer. Et je pense que les mesures qu'on a connues, qui étaient parfois un peu difficilement compréhensibles, ce qui entraînait des grèves un peu qu'on a connues hein, aux urgences, n'auront plus lieu, parce que je pense que la société comprendra et fera comprendre un message politique fort qu'il faut absolument mettre le paquet sur l'hôpital public.
Comment vous expliquez ou comment vous interprétez cet élan de générosité que vous évoquiez juste avant de la part de la population? On a l'impression que l'hôpital a été remis au centre du village, quoi, au centre de la ville.
Oui, c'est tout à fait ça, mais ça ne m'étonne pas trop, parce que lorsqu'il y avait des questionnaires qui étaient des sondages qui étaient faits auprès de la population, la santé était toujours placée en numéro un. Et on le voit bien, lorsqu'on est malade, gravement malade, soi-même ou un proche, tout à côté, tout le reste paraît vraiment futile, quoi. On s'aperçoit que la vie, la mort, c'est essentiel. Et qu'on voit, et c'est ça qui est intéressant dans cette crise, qu'on voit que ça peut toucher n'importe qui, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes qui n'ont pas de facteur de risque, parce qu'on dit non, il y a surtout des vieux qui meurent, qui sont obèses et diabétiques. Non, c'est pas. Certes, statistiquement, c'est vrai, mais dans la réalité, ça peut toucher tout le monde. Et c'est ça qui fait peur. On vient travailler avec une certaine appréhension, mais aussi de l'enthousiasme. Alors, on cache son appréhension, on cache aussi sa peur, c'est normal, on l'a tous. On fait très attention aux gestes barrières, tout le monde est très professionnel, mais on est tous très, très solidaires. Et cet élan de générosité, ça nous fait du bien, mais ça ne m'étonne pas trop, quelque part.
Vous évoquez la peur, vous la sentez, cette peur, au sein de vos équipes, dans les couloirs de l'hôpital? Alors, elle est présente, cette peur du virus?
C'est pas tellement une peur, je dirais, c'est une grande vigilance. On sait effectivement que ça peut frapper, c'est vraiment un virus qui est vraiment très très costaud. Hein. On le voit bien, parce que malgré les gestes barrières qu'on fait encore plus que les autres personnes de la population, parce qu'on est bien bien informé, on s'aperçoit qu'il y a des médecins qui l'ont, des médecins même de réanimation qui l'ont attrapé. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont bottés, casqués, gantés de la tête aux pieds. On est très vigilant, on n'a pas peur, on est très 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 concerné, on va dire, voilà. Mais on a cette petite boule, effectivement. On se dit, bon, ben, on espère passer à travers les gouttes, parce qu'on veut être disponible pour la population.
Est-ce que l'on peut, aujourd'hui, éviter le pire localement concernant ce virus? Est-ce que l'on peut dire, mais peut-être est-il trop tôt, que nous sommes passés à côté du pire?
Non, je ne dirais pas ça. On s'aperçoit qu'actuellement, on a une phase de plateau. Hein. On a actuellement 7 personnes en réanimation, oui. On a 27 patients qui sont hospitalisés avec un Covid. Mais même si on a une petite baisse, qu'on s'aperçoit un peu généralement d'ailleurs en France, on sait qu'on aura un rebond, parce qu'il suffit que le déconfinement commence à se faire et que les beaux jours reviennent et qu'on ne soit pas assez strict sur le maintien à domicile. On a peur que ça revienne. Donc, on sait qu'il y a qu'à peu près 10% de la population qui sont actuellement immunisés parce qu'ils ont eu le Covid. C'est quand même très faible. Et si effectivement on se remet à faire ce qu'on faisait avant, ça va reflamber. Donc, on est très concernés. On le voit bien dans les réunions que l'on fait. On est tous très très concentrés. Le directeur, hein, il décide, mais ne dirige pas seul. Et dans toutes les réunions que je fais avec les médecins, avec les cadres, avec l'équipe de direction, on sait que la guerre n'est pas finie et que ça peut durer encore un certain temps. Donc on est mobilisés tous les jours pour durer. C'est peut-être ça le challenge le plus difficile, c'est de se dire, il faut que les équipes, elles tiennent le coup. Moralement, c'est important, mais aussi physiquement. Donc on s'organise un peu par roulement pour mettre des gens d'office en congé, en repos, pour que ça dure. Parce qu'autrement, si on laisse faire, tout le monde est tellement enthousiaste et tellement concerné qu'on peut s'épuiser rapidement à ce rythme-là. Donc ma mission, c'est de veiller effectivement à ce que l'organisation générale de l'hôpital s'inscrive dans la durée.
Vous êtes le directeur général de deux établissements importants, à Saint-Lô et à Coutances. Est-ce que vous avez assez de moyens pour faire face à cette crise sanitaire, ou bien est-ce que l'on devra tirer des leçons à froid de cette crise sanitaire ?
Alors, les moyens, oui, on les a. On aimerait toujours en avoir plus. On aurait aimé avoir plus de personnel, on aimerait avoir plus de lits, et c'est vrai que on va pas dire qu'on paye un peu des années dans lesquelles on a eu un peu un désinvestissement sur la santé. En tout cas, ça nous est pas apparu comme une priorité budgétaire. Maintenant, on a, comparativement à d'autres pays d'Europe, on a un très beau système de santé. On a des moyens en personnel, on a des grandes compétences professionnelles. On a manqué, mais ça, qui pouvait le prévoir aussi, hein. Moi, je tire la pierre à personne, parce que même les directeurs d'hôpitaux n'ont pas prévu non plus qu'il fallait commander des millions de masques. Maintenant, on se débrouille. Chacun, on a même des stagiaires qui font du phoning auprès de chaque entreprise de la Manche pour demander des blouses, des combinaisons. D'ailleurs, j'envoie un petit appel. C'est des combinaisons à usage unique. Vous savez, comme on voit dans les garages, par exemple, ou les tabliers plastiques à usage unique, c'est un peu ce qui nous manque en ce moment.
Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, les dons de matériel sont les bienvenus dans vos hôpitaux.
Les dons sont les bienvenus, et je dirais les dons sont essentiels, parce que il faut faire la soudure avec la montée en charge des entreprises d'État et des importations que l'État fait, mais on ne perçoit pas encore cet afflux massif de commandes d'État. Donc là, c'est un peu le système D, mais qui marche très bien, et des dons, on en a eu beaucoup. Donc, on continuer à nous envoyer. Un pharmacien récemment m'a dit, tiens, un malade m'a donné 20 blouses, ben je prends 20 blouses. Intersport nous a donné des ponchos, ben on prend les ponchos. Tout est bon, et c'est très important de pouvoir compter sur cet élan individuel. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est important de pouvoir avoir ces dons, même minimes, qui vous paraissent minimes, mais qui sont importants pour nous.
D'une manière très pratique, alors comment fait-on pour vous contacter, pour déposer ces blouses, ces surblouses, ces équipements à l'hôpital pour vous aider ?
C'est très facile. Vous appelez le standard de l'hôpital, ils sont au courant. Vous pouvez déposer ça au standard de l'hôpital, qui va tout de suite alerter les gens de la logistique. Ils vont les mettre dans les magasins qui sont très sécurisés actuellement, avec toute une équipe de petites mains qui font la distribution tous les jours de tous les produits dont on a besoin. Donc ça, c'est simple. Appelez l'hôpital ou passez à l'hôpital, déposez ça à l'entrée. Il n'y a aucun souci, rien n'est perdu, bien au contraire. Et on en a bien besoin.
Alors ça, c'était pour le côté très pratique, Thierry Luc Bulle. J'ai envie de vous poser une question concernant l'héroïsme, entre guillemets, de vos équipes dans les médias, et on en fait partie depuis, depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. On parle beaucoup de ces héros des hôpitaux, ça a été en une de nombreux journaux, et puis on a envie, c'est vrai, de prononcer ce mot quand on parle avec vos médecins, avec vos chefs de service, avec vos infirmières, avec vos logisticiens, parce qu'on sent un grand dévouement. Est-ce qu'il a un sens, ce mot? Et si oui, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi il a un sens, ce mot, quand on parle de vos équipes?
Alors, c'est vrai, quelque part, on ne se sent pas forcément des héros. C'est notre métier. C'est notre métier et on a tous choisi ce métier de travailler dans un hôpital, du directeur au technicien de labo, de l'agent de service en passant par l'infirmière et le médecin. On est tous dans le même bateau, je dirais. Moi, j'en suis le skipper, mais en cas de tempête, on se retourne vers lui. Mais tout le monde tient bien la barre et tout le monde tient bien son métier et tous les équipiers sont là à leur poste. On se sent pas des héros, on se sent concerné pour faire le travail qu'on a choisi et qui nous motive. On est très fiers de ce métier-là. On est très fiers d'être soignants en ce moment, d'avoir de la reconnaissance. Vous savez, c'est essentiel dans la vie d'avoir de la reconnaissance. Là, on en a beaucoup. Ça fait très plaisir et on est content de dire qu'on travaille à l'hôpital. Maintenant, on n'est pas plus héros que d'autres. On est peut-être plus exposé que d'autres. C'est clair, mais on le fait parce qu'on a choisi de le faire et que ça nous fait plaisir de le faire. Et ça nous fait surtout plaisir de voir des patients qui sortent de réanimation avec le sourire, parce que on a eu relativement peu de décès. Quand ça n'a pas été, on a fait des transferts à Saint-Lô, à Caen, à Flers, à Cherbourg, quand vraiment, il y a une semaine, c'était vraiment le coup de feu. Mais on sort les gens de l'hôpital, on les sort guéris. Et même si, effectivement, des soignants sont passés parfois pas loin, il y en a qui étaient pas loin de la réanimation, qui étaient dans un état grave, ils s'en sont sortis, grâce au dévouement de chacun. On en est fiers, effectivement, et je pense que ça doit être motivant aussi pour des jeunes qui veulent plus tard faire ce métier, travailler dans l'hôpital, à n'importe quel échelon de l'hôpital, il y a de la place pour tout le monde, que ça soit tous les métiers, il y a 90 métiers différents dans l'hôpital, et cette motivation, cet engagement, eh ben, c'est quelque chose qui nous aide un peu tous les jours à tenir dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles.
Pour conclure, Thierry Lucbulle, et ce sera ma dernière question, vous avez fait l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez fait l'École des hautes études en santé publique de Rennes, et ça fait 40 ans que vous dirigez des hôpitaux. Pourquoi, vous, personnellement, vous avez choisi ce métier-là depuis 40 ans ?
Alors oui, c'est vrai, à la sortie de Sciences Po Paris, j'ai voulu faire ce métier, et uniquement ce métier, je n'ai passé qu'un seul concours, parce que c'était une mission de service public. J'aurais pas fait l'aviation civile ou dirigé des usines alimentaires, même si c'est tout à fait respectable, mais j'avais cette mission de me rendre utile, et je crois qu'aujourd'hui, un peu à la fin de ma carrière, je me suis jamais senti aussi utile qu'en ce moment. On est motivé, on travaille 10-12 heures par jour sans sentir la fatigue, parce que on est motivé par ce que l'on fait et que on se sent vraiment un rouage essentiel dans un moment de crise sanitaire très très fort. Et j'ai aucun regret d'avoir choisi ce métier-là, bien évidemment.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. De Bravo pour votre travail, bon courage et merci.
Merci beaucoup.
Podcast by Tendance Ouest.